Il est 7h44 à Paris, prochain journal dans un quart d'heure, au programme notamment notre dossier consacré ce matin à cette exclusivité RFI, la version du fils du colonel Muammar Kadhafi sur l'affaire de financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, alors que l'ancien président français est en ce moment jugé à Paris pour la première fois depuis 2011. Saïf al-Islam Kadhafi raconte, il affirme avoir supervisé lui-même la transmission de 5 millions de dollars en espèces à l'entourage de Nicolas Sarkozy. Tous les détails à 8h et sur notre site rfi.fr. Avant cela, la revue de presse africaine dans une poignée de secondes. Et puis notre invité, Théodore Olo, ancien ministre béninois des Affaires étrangères. Avec lui, on revient sur la possibilité pour le Togo d'intégrer l'AES. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, Trump et l'Afrique.
Oui, la presse du continent ne se fait aucune illusion. Le monde, en dehors des États-Unis, n'est pas la tasse de thé du nouveau président américain. Et l'Afrique encore moins, comme le dit Wolf Quotidien à Dakar. Donald Trump n'aura pas beaucoup à secouer l'arbre par rapport aux relations avec l'Afrique, qui vraisemblablement n'est pas sa priorité. En effet, complète le pays au Burkina Faso, l'Afrique n'intéresse pas le désormais président des États-Unis et pourrait être encore ignorée comme elle l'a été durant son premier mandat. C'est vrai que cette fois, il n'a pas tenu des propos insultants à l'égard de certains États du continent qu'il avait qualifiés, on s'en souvient, de pays de merde. Mais pointe le pays, ce deuxième mandat risque lui aussi de laisser un souvenir désagréable aux Africains, en raison non seulement de sa politique en matière d'immigration qui fermera les portes de l'Amérique aux jeunes du continent, mais aussi en raison de l'imposition des droits de douane pour les importations africaines aux États-Unis, avec la très forte probabilité de ne pas renouveler cette année l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA, qui exonère de taxes douanières un certain nombre de produits en provenance de 32 pays d'Afrique subsaharienne.
Toutefois, souligne Jeune Afrique, l'homme en tant que tel, avec sa poigne et ses outrances, n'est pas sans séduire certains dirigeants du continent.
Oui, c'est vrai, explique le site panafricain. Certains leaders africains adeptes du néo-virilisme kiffent le style de celui qui est redevenu hier le locataire de la Maison Blanche, au fantasque ougandais Yoweri Museveni ou au putschiste francophone bombeur de poitrine. Le culte de l'homme fort n'est pas pour déplaire. Pour peu que Donald Trump consacre une once d'attention aux pays africains, il pourrait rendre la politesse aux aficionados nationalistes de la poignée de main vigoureuse. Ces derniers mois, relève encore Jeune Afrique, la campagne électorale de la revanche n'a guère été émaillée d'allusions au continent, ni dans le barnum communicationnel d'Elon Musk, ni dans les diverses auditions de Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État. Mais, s'interroge le site panafricain, n'est-ce pas ce qui convient le mieux à nombre de dirigeants africains comme la Chine ou la Russie? Le partenaire international idéal des démocraties approximatives n'est-il pas une puissance économique volontairement aveugle au mode de gouvernance ou encore au traitement des droits humains?
Finalement, le seul intérêt que Donald Trump pourrait trouver à l'Afrique, c'est d'en faire un terrain de jeu pour contrer les avancées de certains de ses rivaux.
Oui, c'est du moins ce qu'affirme le Djeli en Guinée, presque traumatisé par les avancées de l'Empire du Milieu. Le président américain pourrait ne pas être insensible à l'influence grandissante que le pays de Xi Jinping engrange en Afrique. Cela pourrait conduire les États-Unis à se montrer plus attentifs aux principaux partenaires de la Chine sur le continent. Il s'agit notamment de l'Afrique du Sud, du Nigeria et de l'Égypte. En tant que fournisseur essentiel de minerais de la Chine, la RD Congo et la Guinée pourraient également intéresser les États-Unis. Il en va de même pour l'Angola, le Tchad, mais aussi le Soudan, dont les ressources, notamment pétrolières, sont également convoitées. Dans la même optique, relève encore le Djeli, il est possible que les États-Unis s'impliquent un peu plus dans la résolution de la crise politique et sécuritaire au Sahel. Ce n'est pas que les présidents en treillis issus des coups d'État gênent en quoi que ce soit le président Trump, mais les liens étroits que ces dirigeants entretiennent avec Moscou peuvent être perçus comme une menace pour les intérêts américains dans la région. Cela signifie qu'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani pourraient intéresser Washington, mais, conclut le site guinéen, il est sans doute trop tôt pour se faire une idée de l'outil que Donald Trump utilisera contre eux, la carotte ou bien le bâton.
Enfin, parmi les pays africains qui se félicitent de l'arrivée de Trump au pouvoir, il y a le Maroc.
On se souvient qu'en un seul tweet, il y a 5 ans, Trump avait reconnu la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental. Désormais, pointe le monde Afrique, le Maroc espère bien que les États-Unis apporteront la touche finale, l'établissement d'un consulat américain au Sahara occidental. L'acte, s'il venait à se confirmer, serait hautement symbolique pour Rabat. Ce serait en effet le signe d'un nouveau pas en avant vers la résolution en sa faveur du litige sahraoui.
Frédéric Couteau.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
L'âge d'or de l'Amérique commence, a déclaré Donald Trump. Investi hier 47e président des États-Unis, le dirigeant a fait son retour à la Maison-Blanche et il a immédiatement signé de nombreux décrets. Il a également suspendu, Donald Trump, l'interdiction de TikTok, claqué la porte de l'accord de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé. Il a lancé sa vaste opération consacrée à l'immigration illégale, l'un des piliers de sa campagne. Il a déclaré l'état d'urgence permettant de mobiliser l'armée à la frontière avec le Mexique et a remis en cause le droit du sol. Dans la bande de Gaza, on entre aujourd'hui dans le troisième jour de cessez-le-feu. Hier, plus de 900 camions d'aide humanitaire sont entrés dans l'enclave palestinienne. Information de l'OCHA. Et puis en France, les députés ont débuté l'examen du projet de loi d'urgence pour Mayotte. Son adoption ne fait guère de doute au regard de l'impératif d'accélérer la reconstruction de l'archipel après le passage du cyclone Chido. RFI 7h50 à Paris. Ce n'est pas impossible, voilà ce qu'a répondu jeudi dernier le ministre togolais des Affaires étrangères à la question « Est-ce que le Togo va rejoindre l'AES, l'Alliance des États du Sahel, formée du Mali, du Niger et du Burkina Faso ?» Alors pourquoi le régime du président Fornier Simbé caresse-t-il ce projet ? Est-ce pour des raisons politiques, des raisons économiques ? Notre invité ce matin tente de répondre à ces questions. Théodore Olo a été ministre béninois des Affaires étrangères. Il a aussi présidé la Cour constitutionnelle du Bénin et il répond à Christophe Boisbouvier.
Professeur Théodore Olo, bonjour.
Bonjour.
Êtes-vous surpris par l'éventuelle adhésion du Togo à l'AES, l'Alliance des États du Sahel ?
Vous savez que pour le moment, étant donné que le port de Cotonou est fermé au commerce avec le Niger, le port de Lomé sert de solution de rechange. Et de ce point de vue, il y a un intérêt économique et peut-être même politique pour le Togo d'intégrer l'AES, puisqu'au niveau de la CEDEAO, il y a des convergences politiques mettant l'accent sur la démocratie, convergence acceptée par la plupart des pays anglophones, quelques pays francophones, le Togo n'en faisant pas partie, et je pense que la souveraineté qui se manifeste dans les pays de l'AES se fonde sur le refus, en réalité, de cette convergence politique. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt économique et aussi un intérêt politique que le Togo intègre l'AES. Mais on attend la décision du président Faure, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères.
Oui, Robert Dussey est prudent. Hein. Il dit qu'il faudrait que ce projet soit validé par le président et par le Parlement. Il affirme aussi que l'Alliance des États du Sahel, c'est une coalition souverainiste et qu'il est donc logique que le Togo y adhère puisqu'il partage la même idéologie.
Je constate que beaucoup de ces États, tout en rejetant la présence militaire française, initient une coopération militaire avec d'autres pays tels que la Russie. La souveraineté, c'est de défendre ses intérêts. Et je pense qu'au niveau de la CEDEAO, il y a cette défense des intérêts avec la création de l'ECO. C'était les pays francophones qui essayaient de bloquer le processus qui doit reprendre, je crois, en 2027. Donc c'est un prétexte en réalité de dire que c'est des États qui se veulent souverainistes. Il y a d'autres pays qui sont aussi souverainistes, mais qui sont toujours au niveau de la CEDEAO.
Ce que sous-entend le ministre togolais, c'est que la CEDEAO est instrumentalisée par la France, c'est ce que disent en tout cas les trois pays actuels de l'AES, et qu'avec la CEDEAO, il n'y a pas de vraie souveraineté.
Je ne pense pas que le Nigeria ou le Ghana puissent être considérés comme des laquais de la France. Être souverain, c'est prendre les décisions qui s'imposent en tenant compte des intérêts de son pays et non pas des intérêts de la classe gouvernante, de mon point de vue. Je crois que quelqu'un comme Sankara était très souverainiste, mais n'a jamais décidé de quitter la CEDEAO ni l'Union africaine.
Donc pour vous, la CEDEAO n'est pas instrumentalisée par une puissance étrangère comme la France ?
Je ne pense pas que la France, elle seule, puisse imposer son point de vue. C'est peut-être un argument très facile pour justifier certaines positions. En tout cas, quand j'étais ministre des Affaires étrangères dans les années 90 et que nous discutions des questions de la CEDEAO, je n'avais jamais l'impression que la France s'immisçait dans les activités que nous menions. Il y avait le leadership du Nigeria à l'époque, c'est vrai, mais il n'y avait pas une émission de mon point de vue de la France. Je ne pense pas que la situation ait évolué entre-temps. Je voudrais rappeler que la limitation des mandats est un élément de convergence au niveau de la CEDEAO qui fait blocage parce qu'il y a des pays comme le Togo qui s'étaient opposés à cette limitation des mandats. Alors quand on vient me dire que la CEDEAO est instrumentalisée par la France, je trouve que c'est un argument très facile quand on ne veut pas accepter certaines exigences du point de vue de la démocratie ou du point de vue de l'alternance, du point de vue de la limitation des mandats. Et c'est sur la base de ce refus que des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso se sont retirés aujourd'hui de la communauté.
Et voulez-vous dire qu'il y a une convergence entre les trois pays de l'AES et le Togo d'un point de vue idéologique ?
C'est une évidence de mon point de vue en tenant compte de ce qu'aujourd'hui dans ces pays nous sommes dans des régimes où l'alternance n'est pas encore une évidence. Donc il y a cet élément de convergence idéologique qui peut expliquer cette proximité. Il y a aussi les intérêts économiques parce que le Togo aussi en tant qu'État souverain défend ses intérêts.
Sur le plan économique justement, depuis que la frontière Niger-Bénin est fermée, les marchandises à destination et en provenance du Niger ne passent plus par le port de Cotonou mais par celui de Lomé. Avec une adhésion du Togo à l'AES, est-ce que cette route commerciale ne serait pas encore plus renforcée et validée ?
Pour aller du Togo au Niger, il faut traverser non seulement le Togo, mais il faut aussi traverser le Burkina Faso. Vous savez qu'il y a des difficultés militaires en raison de l'insécurité qui règne, ce qui fait que les commerçants se sentent un peu pénalisés et il y a des protestations en raison du renchérissement de coûts des produits qui sont importés. Ce qui veut dire qu'il va falloir garantir la sécurité de ce corridor. Cela prendra du temps, mais si la volonté politique y est, ils y arriveront.
Professeur Théodore Holo, je vous remercie.
L'ancien ministre béninois des Affaires étrangères Théodore Holo, il répondait à Christophe Boisbouvier. Et cette question du possible élargissement de l'AES, c'est au programme d'appel sur l'actualité aujourd'hui. Juan Gomez attend vos questions et vos réactions à partir de 8h10 temps universel et au 33 9 693 693 70. Maman, votre carte postale du Gondwana, comme chaque jour. Et ce matin, vous nous dites que dans la très très démocratique République, il y a un candidat plus important que tous les autres.
Oui, comme son nom l'indique, la très très démocratique République est un pays très très démocratique. C'est le foyer de la démocratie. Elle est née au Gondwana, la démocratie. On lui a donné le biberon ici chez nous. Hein, elle y a appris à marcher, puis est partie répandre sa bonne parole dans le reste du monde. C'est pour ça que lorsque vous entendez parler d'un concept ou d'une invention démocratique quelque part dans le monde, soyez sûr que tout est parti de notre très très démocratique République. Par exemple, quand il y a différents types d'élections, il y a par conséquent différents types de candidats, c'est logique. Élections présidentielles, législatives, municipales, cantonales, etc. Chacune a son type de candidat. Même les élections des Miss Beauté, du plus beau village du Gondwana ou du gars le plus musclé du bureau, tous ont des candidats bien identifiés et spécifiques à leur type de scrutin. Mais quand on dit candidat naturel, il n'y a aucune de ces élections qui pourrait se targuer d'enfanter un candidat de ce type. Bah oui, quand on dit candidat naturel, on a tout dit. L'arbitre siffle la fin du match avant même qu'il ait commencé, le public fait demi-tour, la télé arrête son direct. Candidat naturel, c'est tout un programme. C'est une intelligence artificielle à lui tout seul. Candidat naturel, c'est le point final. Il n'y a qu'en très très démocratique république que ce spécimen de candidat pousse. Il a besoin d'un microclimat très spécifique. Bah oui, pluviométrie, hygrométrie, vent, taux d'ensoleillement, composition du sol en nitrate, oligo-éléments et sels minéraux. Candidat naturel, c'est l'alpha et l'oméga d'une élection. Bah oui, c'est le Graal que recherche tout candidat à une élection. Rien que dans son énoncé, bah tu sais tout. Et tout de suite, bah oui, dès que t'entends candidat naturel, t'as le résultat de l'élection, le taux de participation, la date de l'investiture et même le résultat de la prochaine élection dans 5 ans. Attention, il faut pas confondre candidat naturel et candidat unique. Le candidat unique, bah c'est une notion d'un autre temps révolu, le temps jadis où on ne faisait pas attention à ce qu'on mangeait. Candidat unique, c'était avant l'apparition du bio, de l'éthique et de l'équitable. Aujourd'hui, au Gondwana, bah on mange sain. On mange bio, on fait attention à sa santé. Le candidat unique contient des résidus de pesticides, du plomb, de l'aluminium, etc. À la poubelle, le candidat unique. Vive le candidat naturel, 100% végétal, 100% vegan, pour des élections saines et transparentes, avec une victoire naturellement naturelle, une victoire qui respecte l'univers et l'environnement et la chaîne alimentaire. Attention, une fois encore, le naturel dans un candidat naturel n'est pas le même que celui qui est dans enfant naturel. Bah oui, un enfant naturel est un enfant conçu hors mariage, alors que le candidat naturel est un enfant légitime, adoubé par le peuple avant même l'élection et validé par le Conseil constitutionnel le plus naturellement du monde. À demain.
À demain, Maman. RFI, vous restez avec nous dans une minute, le journal. Ensuite, on parle de la vision du monde de Donald Trump, le nouveau président américain, avec nos invités. Que doit-on lire derrière ces premières annonces ? Rendez-vous tout à l'heure. Thank you.
Le journal en français facile.
C'est un français qui est dit dans une langue très claire et une langue qui est très simple.
Adrien Delgrange.
Je vous retrouve du lundi au vendredi pour un journal d'information internationale. 10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
Personnellement, c'est une émission que j'écoute et que j'aime beaucoup parce que ça me permet de comprendre l'actualité et d'avoir une autre façon de dire l'actualité.
Retrouvez Adrien Delgrange pour Le journal en français facile tous les jours de la semaine à 16h temps universel sur RFI.
La Foire internationale d'art contemporain africain, 154 Contemporary African Art Fair, revient à Marrakech du 30 janvier au 2 février. À découvrir les créations de plus de 90 artistes issus du continent africain et de ses diasporas. Plus d'informations sur 1-54.com. En partenariat avec RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau Hip-Hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.